Merci beaucoup, Antonio. Je crois que l'action de Haute-Cœur, on va peut-être en reparler, j'en reparlerai à propos de l'École des Beaux-Arts, elle est extrêmement ample, en fait, et on en perçoit seulement quelques aspects. Je retiens de ce que tu dis une posture qui a été évoquée par Rémi Baudouy avant, qui parlait de promiscuité. Il y a chez certains des hauts fonctionnaires de Vichy des effets de milieu qui opèrent de multiples manières, dans tous les sens. Des effets de milieu d'avant-guerre, des effets de sociabilité pendant la guerre, des effets d'intimité. Antonio a parlé de ce document absolument indispensable qui est le rapport de le journal de Landowski, disponible très facilement sur le web, qui montre très bien les rapports quotidiens entre les deux. Donc promiscuité, amitié, ce sont aussi des catégories de cette période. Tricha va nous parler d'un aspect de la politique des Beaux-Arts dans cette période, autour du Conseil des bâtiments civils. Voilà.
Pour comprendre la politique de la centralisation des bâtiments civils développée entre 1940 et 1944, il faut d'abord remonter à la fin du XVIIIe siècle. À la veille de la Révolution, la responsabilité des édifices était laissée aux diverses administrations, sans règles, contrôle ou garantie d'entretien commun. L'Assemblée constituante, pour mieux gérer les édifices de l'État, les regroupe en trois catégories: la propriété nationale, devenue bâtiment civil, la liste civile, devenue palais nationaux, et les monuments. Mais à cause des réticences des ministères constructeurs, la centralisation réalisée n'est que partielle. La solution trouvée, est alors d'harmoniser le contrôle des édifices de l'État avec la création en 1795 du Conseil des bâtiments de la République, devenu bien sûr le Conseil général des bâtiments civils. Désormais, l'administration des bâtiments civils comprend un service de gestion et un service de contrôle. Malgré le caractère partiel de cette centralisation dans un premier temps, le service et le Conseil général restent influents durant la première moitié du 19e siècle. Puis, les bâtiments civils sont ballottés, d'abord entre les ministères de l'Intérieur et Travaux publics, et dans un deuxième temps, entre Travaux publics et le ministère qui s'occupe des arts, soit Instruction publique, soit des arts. Cette errance conduit à une réduction de statut, des effectifs et du budget, situation aggravée par les lois de la déconcentration administrative de la fin du 19e siècle, qui rendent l'examen des projets ministériels par le Conseil général facultatif. Quand les bâtiments civils trouvent enfin un rattachement stable au sein des Beaux-Arts en 1995, là avec le ministère de l'Instruction publique, le service et le Conseil général sont très affaiblis. C'est enfin au début du XXe siècle que l'ambition de centraliser les services ministériels de l'architecture rennais demeurant un leitmotiv jusqu'à 1946, malgré les nombreux bouleversements de cette période. Les réformes des bâtiments civils sont lancées par Étienne Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d'État de 1905 à 1912, et son chef de cabinet, Paul Lyon. Elles sont déclenchées suite aux divers scandales concernant des édifices construits par d'autres ministères. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais c'est toute une série. Et c'est ça qui a légitimé un renouveau du bureau et du Conseil général pour mieux assurer la qualité des constructions et aussi leur budget. Les réformes avancent durant toute la période sur les deux fronts, gestion et contrôle. L'amélioration du statut du bureau est liée à la création d'une administration plus importante pour l'architecture. 1907 marque l'unification des bâtiments civils et des monuments historiques et la création d'une division des services de l'architecture. Le Palais National intègre les bâtiments civils en 29. Avant, ils étaient rattachés bizarrement au bureau des théâtres. Et un service extérieur de contrôle est rétabli en 1933. Puis, Georges Huisman pilote la rédaction du décret-loi de juin 38, dont le rapport retient le principe de centralisation des services ministériels de l'architecture au sein des bâtiments civils, et les études pour l'application de ce décret-loi soutiennent la poursuite de la centralisation. Ces recommandations retenues par Louis Hautecoeur fondent la loi du 1er décembre 1940, donc cette loi complète le décret-loi de 1938, et la division des services de l'architecture est transformée en direction de l'architecture. Dernière étape, Robert Danis pilote la réforme d'août 1945, qui crée une direction générale de l'architecture indépendante des beaux-arts. Et on voit dans les années 40 comment les bureaux des bâtiments civils sont renforcés. Là, un simple bureau qui dépend sur d'autres bureaux pour fonctionner, jusqu'à ce qu'on fait carrément une sous-direction. On se parle des travaux, mais c'est dédié aux bâtiments civils. Donc, les réformes ont bien bénéficié l'administration des bâtiments civils. Malgré l'appel à la centralisation, ceci n'est que partiel, une fois encore. Comme après la Révolution, l'harmonisation de contrôle devient le pierre angulaire de cette politique. La réforme du Conseil général de mars 1911 rend obligatoire l'examen de tous les projets ministériels présentés par les architectes. Donc, ça renverse la fin du 19e où les choses sont devenues facultatives. Donc, c'est une réforme très importante. Néanmoins, la phrase présentée par les architectes crée une possibilité de dispense assez populaire au sein de certains ministères qui dit que les plans sont dessinés par les ingénieurs, les dessinateurs, les choses comme ça. Donc, ce n'est enfin en 1930 qu'on supprime cette petite phrase-là. Face à la diversification des financements des travaux, le décret de juillet 1932, puis le décret-loi de juin 1938, imposent un passage devant le Conseil général, respectivement des constructions des établissements publics autonomes, puis des édifices subventionnés par l'État. En 1945, le Conseil devient le dernier ressort pour toutes les commissions d'architecture de l'éducation nationale, y compris monuments historiques et sites. L'importance de ces changements aboutit à transformer, en août 1945, le Conseil général des bâtiments civils en Conseil général des bâtiments de France. Ce changement de nom correspond aussi à une évolution de la composition du Conseil général. Avec les réformes, celui-ci devient d'abord plus interministériel, avec les réformes de 1911, puis 32, 34, 38 et 45, nous voyons que le nombre de sièges augmente. Donc, pour les ministères, on a les postes en vert. De plus, de nouveaux sièges sont attribués à des fonctionnaires de l'administration de l'architecture en rose, ainsi qu'à des administrations comme les présidences et le Conseil d'État en orange, voilà, là. Et l'Ordre des architectes et la Ville de Paris, on a plus de sièges là en violet. Néanmoins, le nombre des architectes temporaires, on voit en bleu, et en rose fluctue selon les besoins, selon le nombre de dossiers qui arrivent devant le Conseil. Même chose pour les inspecteurs généraux. La création d'un service extérieur en 1933 amène à la perte d'un poste là, qui amène à la création d'un poste adjoint juste après. Et puis avec l'arrivée de la reconstruction, on ajoute un poste inspecteur général et au fur et à mesure, trois postes d'adjoint. Donc il faut souligner que la centralisation des services de l'architecture poursuivie durant ces quatre décennies est liée à une inquiétude partagée par tous les régimes. Et Vichy, ce n'est pas quelque chose à part dans cette pensée. Donc il s'agit de redresser les finances de l'État. Dès 1919, de nombreuses enquêtes, surtout celles de la Cour des comptes et du Comité de réorganisation, Le Comité national de réorganisation souligne les problèmes liés à l'absence d'un unique service de l'architecture. Il s'agit de la duplication des emplois et la multiplication des procédures à suivre pour les fournisseurs. Face à ce scénario, le changement de régime sert en fait à accélérer la réforme. Il n'empêche rien, en fait, il sert les réformes. Toutefois, la centralisation souhaitée peut sembler utopique, car elle est bloquée chaque fois en Conseil des ministres, comme après la Révolution. Face à cette réalité, comment expliquer des réformes poursuivies durant 4 décennies? Car il faut admettre que ces réformes, en traversant une troisième république finissante, le drôle de guerre, l'occupation, la libération et le gouvernement provisoire, est étonnante. Surtout, ces réformes se poursuivent malgré une très grande instabilité gouvernementale. Donc, dans la période de réforme, donc Troisième République, entre 1906 et 1940, c'est 34 ans, on a 44 ministres. Puis, entre 40 et 47, donc une période de 7 ans, on a 9 ministres, mais bâtiment civil change 2 fois aussi ministre qui complique, qui gère le portefeuille. Pourtant, le défilé des ministres ne bouscule pas l'agenda de réforme, car les hommes nommés sont largement issus de gauche, sauf durant l'occupation. Du coup, les directeurs des Beaux-Arts se retrouvent avec une marge de manœuvre confortable. Notamment, là, nous avons parlé il y a quelques minutes de Paul Lyon. Le personnage pivot dans notre histoire, c'est Paul Lyon. Directeur puis directeur général des Beaux-Arts de 1920 à 1930. C'est lui qui transmet cet esprit réformateur dès son début dans le cabinet du Jardin Beaumetz. Puis, il va transmettre ses idées d'abord au Robert Dany, futur directeur général de l'architecture. Dany arrive quand Paul Lyon est chef de division de l'architecture. Et puis, Louis Hocker et les 3 fonctionnaires clés dans l'administration des bâtiments civils durant l'occupation, René Percher, Claude Delestaing et Henri Cosserand de Voigny-Noisy, qui arrivent quand Paul Lyon est directeur ou directeur général de Beaux-Arts. Donc, on a vraiment un lignage, une linéarité qui est poursuivie par ces relations. Le drôle de guerre contribue aussi à souder ces acteurs, surtout autour de René Percher. C'est Percher qui a dirigé l'administration des Beaux-Arts évacuée au château de Chaumont-sur-Loire. Lorsque le château est pris par les Allemands le 2 juillet, donc les petits fonctionnaires de Beaux-Arts résistent les Allemands à peu près 24 heures, après ils cèdent le château, Percher se replie avec son administration à Dissé, en Haute-Vienne, avant de préparer le retour à Paris, achevé le 25 juillet. Le fait aussi d'être localisé sur Paris, surtout avant la disparition de la ligne de démarcation, joue aussi. Les restrictions sur la correspondance entre Vichy et Paris rendent les Beaux-Arts plus ou moins autonomes. C'est difficile à vraiment échanger. Enfin, peut-être très important à noter, à la différence de monuments historiques, très peu de bâtiments civils subissent des dommages durant l'offensive allemande. Quand le Bureau de bâtiments civils recommence son travail à la fin de juillet 40, il reprend là où il s'est arrêté. Un autre facteur expliquant cette continuité est la création d'une administration parallèle pour la reconstruction. L'idée de développer l'intervention de l'État dans des questions urbaines est déjà discutée dans les années 30, et le décret-loi de juin 38 souligne que le Conseil général, depuis ses origines, est responsable pour toutes les questions touchant à l'urbanisme. Donc c'est eux qui, historiquement, ont le droit de contrôle d'urbanisme. Dans cette logique, en août-septembre 1940, Hautecoeur, quelques architectes de son service, notamment Joseph Marast et Pierre Maté. Joseph Marast fait les propositions les plus poussées, les plus détaillées. Donc, il rédige les propositions pour un service de l'urbanisme rattaché aux Beaux-Arts qui serait responsable de la reconstruction. Or, le mieux que Hautecoeur peut négocier est le rattachement de l'urbanisme à l'architecture une fois la reconstruction terminée. En fin de compte, de ne pas récupérer la reconstruction protège les bâtiments civils de certaines politiques vichyistes et d'une croissance trop rapide qui aurait dû bousculer la réforme plus douce qui était poursuivie depuis longtemps. Étant donné la longévité des acteurs clés des Beaux-Arts et des bâtiments civils, les effets de la drôle de guerre et le fait que la reconstruction leur échappe. Cette continuité apparaît tout autant humaine que politique. En effet, les années 39 et 40 servent à consolider engagement, affinité et habitude chez les bâtiments civils. Cette situation spécifique doit être soulignée. Patrice Gourbin nous a bien montré que les monuments historiques sont beaucoup plus bousculés durant toute cette période. Oh, je rate un E là. Désolée. Néanmoins, l'impression de routine quand on ressort est trompeuse. À partir du 12 juillet 1940, les activités des organismes consultatifs sont suspendues. Le même type de suspension durant la Grande Guerre avait presque enterré non seulement le Conseil général, mais aussi le bureau, et les gens n'ont pas oublié. Malgré l'interdiction, le Conseil général reprend ses activités dès octobre 1940. Il n'hésite pas. Il ne veut pas perdre ce qui était acquis et aussi ne pas mettre en péril la préparation de l'application du décret-loi de 38 qui fait partie de la loi de 40 de décembre 40. Donc il faut être là, présent, pour avoir la légitimité pour la réforme. La continuité constatée dans l'activité du Conseil général donc, est très stratégique. Elle tient aussi au fait que ses membres clés restent stables. Le Conseil général n'est que légèrement touché par les lois d'apuration. Exigé par Jacques Chevalier, résisté par Louis Hautecoeur, mais qui a enfin cédé, l'apuration des membres juifs touche l'ingénieur Alfred Jacobson, délégué du ministère des Travaux publics, et Emmanuel Pontremoli, très proche à Louis Hautecoeur, qui était à l'époque inspecteur général honoraire. Puis l'interdiction des membres communistes écarte Roby, délégué du ministre du Travail. Côté nomination, l'ouverture expérimentée avant la guerre pour les architectes membres du Conseil général est généralisée durant ces années. Et il s'agit d'un gros changement. Robert Danis, voilà, ici, est le premier architecte dans l'histoire du Conseil général, non pris de Rome, d'être nommé à l'inspection. Il est entré par le concours d'architectes adjoints. Donc, on voit les gens qui sont arrivés par concours en orange là. Puis Auguste Perret est nommé inspecteur général en 1939. On voit Perret là, qui remplace Danis, qui était d'abord mobilisé puis emprisonné. Et bien sûr, Perret est entré, nommé après avoir siégé 12 ans comme membre temporaire au Conseil général. Le Conseil général a des sièges pour les architectes extérieurs au service. Donc, on voit Perret là. On retrouve ces trois voies d'entrée dans le corps des bâtiments civils dans les nominations de 43 pour l'inspection. Il y a un inspecteur général qui est pris de Rome, donc Albert Ferrand. Un adjoint qui est arrivé par le concours, Marc Bitterlin, et un architecte extérieur au service, Jean Desmarais, qui est entré par service dans le Conseil général des bâtiments civils. l'équilibrage entre les prix de Rome et les autres voies d'entrée, et par la suite développé chez les auditeurs, ça commence déjà en 38, et chez les membres temporaires en 40, et après ça devient la règle. Donc il y a une démocratisation poursuivie durant les années de l'occupation. Aussi, durant l'occupation, comme avant la guerre, le Conseil général s'est réuni pour se prononcer sur nombre restreint de projets, majoritairement situés en Île-de-France, et comme avant la guerre, les avis sont caractérisés par un pluralisme esthétique, aussi bien que la recherche de solutions pragmatiques. Les critiques les plus fréquentes visent le déséquilibrage entre programme et site. Bien sûr, le programme est trop grand pour le site. Un exemple, le projet pour la maison administrative et la section finno-scandinave de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Le site était trop étroit et ils ont proposé un projet qui incorporait des logements de fonction dans un dépôt de livres. Dans cette séance de 15 mai 1941, le Conseil général suggère un site alternatif pour la section finno-scandinave qui appartient à l'université Rouvrelette. Il y avait à l'époque un bâtiment sur le site. Il y avait beaucoup d'hésitations, mais à fil de compte, des années plus tard, ils ont reconstruit un bâtiment sur le site pour ce qui est aujourd'hui la bibliothèque nordique, suivant les recommandations du Conseil général. À plusieurs reprises, des questions esthétiques sont explicitement soulevées par les rapporteurs, normalement en lien avec l'inscription du projet dans son contexte. L'extension du central téléphonique Rue de Temple est un exemple typique. Le projet arrive devant le Conseil le 13 mars 1941. Le rapporteur André Lecomte note que l'architecte Guillaume Tronchet n'a pas figuré le bâtiment existant de François Lecoeur dans ses dessins. Lecomte se rend lui-même rue de Temple pour étudier la question de près, et dans son rapport, il trouve que M. Tronchet, voilà, a sans doute cherché à respecter les grandes lignes de l'architecture de son prédécesseur, mais que le souci d'y manifester sa propre personnalité l'a quelque peu emporté. Donc le projet remanié est approuvé en mai 1942, et c'est ce projet-là qui est construit après la guerre. Donc le Conseil général des bâtiments civils garde un rythme régulier de travail, et les séances se poursuivent jusqu'au 20 juillet 1944, quelques semaines avant l'insurrection. Certes, les projets ou d'avant-projets sont peu nombreux. La plupart des avis du Conseil général portent seulement sur les questions financières pour les projets non suivis d'exécution. J'ai commencé par parler de l'importance jouée par l'ambition révolutionnaire de centraliser les services de l'architecture. C'est certainement le point où la rhétorique le plus évident dans les archives de bâtiments civils. Ils citent tout le temps les documents des révolutionnaires. Or, la fin soudaine des réformes, au printemps 1947, révèle la présence d'une deuxième ambition qui reste en arrière-plan jusqu'à ce que la direction de l'architecture devienne une direction générale. Il s'agit de la création d'un ministère des arts autonomes. Le premier attachement de Beaux-Arts le premier rattachement des bâtiments civils aux Beaux-Arts est bien sûr le moment quand on essaie de créer un ministère des Arts, 1890. Si la création d'une direction de la, générale... désolé, j'ai sauté un truc. Donc, les réformes qui s'enchaînent à partir du Jardin Beaumetz et Lyon correspondent un renforcement des Beaux-Arts. Donc, il y a une volonté de renforcer tout pour renforcer les Beaux-Arts. Si la création d'une direction générale de l'architecture en 1945, qui va dans le sens de créer un grand service de l'État de l'architecture, peut-être souhaité à la Révolution, elle n'est pas bien vue par l'administration des Beaux-Arts, qui perd en ce moment 80% de son budget. C'est énorme. Le parti architecture de bâtiments civils dans le budget de Beaux-Arts. en 44. En avril 47, le syndicat du ministère de l'Éducation nationale exprime une inquiétude. L'architecture, libérée de la tutelle d'un directeur de Beaux-Arts, pourrait être facilement absorbée par un autre ministère. Donc, si on perd l'architecture, on perd la possibilité de vraiment peut-être faire un ministère des Arts. Ajoutons que vers 47, il apparaît évident que la MRU, le ministère de Reconstruction et d'Urbanisme, était là pour durer et que l'urbanisme ne reviendrait jamais à l'architecture. Ainsi, dans le cadre des mesures d'austérité budgétaire, la loi d'août 47 réduit la direction générale de l'architecture à une simple direction rattachée à un ministère des Arts et des Lettres, créé en janvier de la même année, qui a duré à peu près 8 mois, je crois. L'ambition de créer un ministère des Arts emporte désormais sur celle d'une centralisation. Pourtant, c'est la cohabitation initiale entre ces deux ambitions, une explicite et une implicite, qui porte le mouvement réformateur lancé avant la Grande Guerre jusqu'à sa cristallisation dans le décret-loi de 1938 et sa consolidation dans la loi de 1940. Pour le bâtiment civil, les années Vichy se fondent dans une période beaucoup plus longue. Merci.